Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de votre émission Bana Okapi. Ce programme dédié aux plus jeunes est réalisé en partenariat avec l'UNICEF. Il est diffusé sur les antennes de Radio Okapi du lundi au vendredi de 15h30 à 17h. Le gouvernement africain ne dépense pas toujours les sommes nécessaires pour assurer une éducation de qualité aux enfants du continent selon l'UNICEF. Les gouvernements africains consacrent environ 2% de leur budget d'éducation à l'enseignement préscolaire, tandis que 20% sont consacrés à l'enseignement supérieur en moyenne. Le financement de l'éducation est un problème majeur sur le continent africain, laissant des millions d'enfants dans l'incapacité d'acquérir les compétences fondamentales nécessaires à leur prospérité future et à celle de leur pays. La faiblesse des résultats de l'apprentissage reste très préoccupante. 4 enfants sur 5 de 10 ans sont incapables de lire et de comprendre une histoire simple. Qu'en pensent les responsables du secteur de l'éducation? Leur avis sur cette question, c'est dans cette émission Bana Okapi, mise en onde par Jean-Claude Nsiala, une présentation de Sarah Sombella. Je vous dis bienvenue à tous.
Okapi, Radio Okapi.
Le gouvernement africain ne dépense toujours pas les sommes nécessaires pour assurer une éducation de qualité aux enfants du continent, selon l'UNICEF. L'éducation pour tous les enfants en Afrique, l'heure est venue. L'UNICEF a publié à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain de nouvelles analyses sur le financement de l'éducation qui montrent que la plupart des pays africains ne remplissent pas leur engagement d'allouer 20% de leur budget national à l'éducation, comme le recommande le cadre d'action pour les objectifs de développement durable pour l'éducation. Le précision avec Gisèle Cage.
L'éducation pour tous les enfants en Afrique, l'heure est venue. L'UNICEF a publié à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain de nouvelles analyses sur le financement de l'éducation qui montrent que la plupart des pays africains ne remplissent pas leur engagement d'allouer 20% de leur budget national à l'éducation, comme le recommande le cadre d'action pour les objectifs de développement durable pour l'éducation. 9 de 49 pays africains, moins d'un sur cinq ont consacré 20% ou plus de leurs dépenses publiques à l'éducation, tandis que 24 pays se sont engagés à consacrer au moins 15% de leur budget national à l'éducation et que 6 pays ont consacré moins de 10% de leur budget national à l'éducation. Malgré les progrès considérables réalisés par les gouvernements africains pour augmenter le taux de scolarisation dans le primaire et le premier cycle du secondaire au cours de la dernière décennie, les écoles sont sous-financées, les classes sont surchargées et les enseignants sont en nombre insuffisant, beaucoup d'entre eux n'ayant pas la formation et les compétences adéquates. La faiblesse des résultats de l'apprentissage reste très préoccupante. En Afrique, 4 enfants sur 5 âgés de 10 ans sont incapables de lire et de comprendre une histoire simple. Alors que l'Union africaine célèbre l'année 2024 comme l'année de l'éducation, il est prouvé que environ 183 milliards de dollars américains sont nécessaires chaque année pour l'éducation des enfants dans les pays africains afin d'atteindre les objectifs de développement durable en matière d'éducation, alors que les ressources disponibles s'élèvent à 106 milliards de dollars, ce qui laisse un déficit de financement de plus de 40%. Les gouvernements africains consacrent environ 2% de leur budget d'éducation à l'enseignement préscolaire, tandis que 20% sont consacrés à l'enseignement supérieur en moyenne. 13 des 40 gouvernements ayant les données disponibles n'ont investi aucune ressource dans l'enseignement préscolaire, tandis que l'enseignement supérieur continue d'être surpriorisé. Le besoin d'investissement ne fera qu'augmenter afin de répondre aux exigences d'une population en âge d'être scolarisée qui croît rapidement, puisqu'on estime que le continent comptera 1 milliard d'enfants d'ici 2050. Sans une attention urgente, l'énorme manque de financement pour l'éducation sera catastrophique pour une génération d'étudiants et pour la croissance économique et la stabilité future de la région.
Merci beaucoup, Gisèle Cage. Le gouvernement alloue plus de 1,8 milliard de dollars pour le secteur de l'éducation en 2024. Les détails avec Michel Kifinda Ngoy.
D'après le document 6 portant les dépenses de développement par titre des crédits de l'exercice 2024, le gouvernement congolais prévoit des dépenses substantielles de l'ordre de 6 726,15 milliards de francs congolais, équivalent à plus de 2,6 milliards de dollars en faveur du secteur de l'enseignement dans la loi des finances pour l'exercice 2024. Ces dépenses projetées représentent un ratio de 18,44% des dépenses totales du budget général du gouvernement central congolais, ce qui reflète l'engagement envers le renforcement du système éducatif. De ce budget global, le document 5 portant annexe explicative d'analyse des prévisions des dépenses de l'exercice 2024 indique que l'enseignement primaire, secondaire et technique est doté d'un montant prévisionnel de plus de 5 117,4 milliards de francs congolais, soit 2,018 milliards de dollars, au taux budgétaire de 2535 francs le dollar, ce qui représente une quotité de 14,88% du budget national. Dans le cadre de cette initiative, une enveloppe de 697,4 milliards de francs congolais sera décaissée pour assurer le bon fonctionnement du ministère de l'EPST. Selon les détails de la loi des finances, des allocations spécifiques seront destinées aux différentes composantes du secteur éducatif. Pour la direction d'études, planification et statistiques, des projections de l'ordre de 2,2 milliards de francs congolais seront allouées, tandis que 411,6 milliards de francs congolais serviront au fonctionnement des services de contrôle et de paye des agents. Cette année, on observe une légère augmentation par rapport à l'année précédente, où le gouvernement avait alloué des crédits budgétaires de l'ordre de 4,169 milliards de francs congolais au sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ces investissements soulignent l'importance accordée à l'éducation dans les priorités budgétaires du gouvernement congolais pour 2024.
Merci Michel Kifinda Ngoy. Plusieurs écoles ne fonctionnent pas en raison de conflits armés qui persistent depuis 7 ans dans le territoire de Djougou. Certaines infrastructures scolaires ont été détruites par des hommes en armes et d'autres incendiées et n'existent que de nom. Conséquence, des milliers d'enfants traînent dans les rues ou enfouis avec leurs parents pour s'installer au site de déplacés. Dans un entretien ce lundi à Radio Okapi, un responsable d'école à Djougou demande aux autorités du pays de bien gérer ce fonds de 1,8 milliard de dollars américains alloué à l'éducation pour ce nouveau gouvernement. Dieu merci Unega, enseignant au complexe scolaire Lisungi de Mungwalu, dans le territoire de Djougou, s'entretient avec Ezekiel Mousalia.
Monsieur Unega, Dieu merci, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Enseignant à l'école Lisungi de Mungwalu, nous sommes à 85 km de la ville de Bunia. Vous le savez, hein, le gouvernement congolais projette des dépenses à l'ordre de 1 million ou bien de 861 milliards de francs congolais, un montant équivalent à plus de 1,8 milliard de dollars américains. Comment vous vous êtes senti quand vous avez appris cette nouvelle?
Messieurs les journalistes, en apprenant cette nouvelle, nous sommes vraiment très contents de cette nouvelle politique de notre maman première ministre. La toute première chose à demander, c'est d'abord la bonne gouvernance de cette somme, parce que depuis lors, on a connu des gouvernements qui planifient, qui disposent vraiment des plans merveilleux pour la bonne marche, surtout de l'éducation, pour un bon changement de l'éducation, sauf que la gérance et la gouvernance de ces projets qui ne permet pas surtout que que tous les bénéficiaires soient bénéficiaires des bois. Alors, nous demandons la meilleure gouvernance au bénéfice de toutes les provinces, parce que il y a des provinces qui sont en insécurité entre notre chère province, la province de l'Ituri, territoire de Djougou. Nous sommes touchés. Il y a des écoles qui ne fonctionnent pas, il y a des écoles qui ne vont même pas bénéficier de ces plans, pendant que c'est vraiment à leur intérêt. Alors, ils ne vont pas bénéficier à cela parce que les écoles ne sont pas vraiment en vie, les écoles ne sont pas vivantes. Par exemple, ici à Mongualou, il y a des écoles qui sont déplacées sur place ici à Mongualou. Maintenant, s'il faut construire, s'il faut que ces écoles bénéficient, par exemple, la construction de fournitures scolaires, tout au sol, quand bien même ils sont en déplacement, comment ils vont bénéficier de ces plans? C'est comme ça, nous demandons vraiment la meilleure gestion de ces projets pour que toutes les écoles soient bénéficiées, et puis le rétablissement alors de la paix dans toutes les provinces, surtout la province de l'Ituri et du Nord Kivu, qui sont vraiment touchés totalement, parce qu'il y a des territoires qui sont saccagés, qui sont vraiment inhabités, qui n'ont plus de population, monsieur le journaliste.
Oui, comment se présentent les infrastructures scolaires dans le territoire de Djougou, qui, vous l'aviez bien souligné, est vraiment en proie à l'insécurité, à l'activisme des groupes armés. Dans quel état se présentent les infrastructures scolaires là-bas?
Monsieur le journaliste, sans vous mentir, vraiment c'est déplorable vraiment. Si on se rend sur le terrain pour voir vraiment comment sont les états des infrastructures, vraiment c'est à regretter. Vous trouverez par exemple le secteur de Banyalikilo, c'est saccagé en totalité, c'est saccagé vraiment, il n'y a pas même une école. Toutes les écoles des secteurs de Banyalikilo, là, de chef-lieu de secteur, sont déplacées. Les autres écoles à Bounia, les autres sont ici à Mongualou. Il y a même les écoles se trouvant, par exemple, à Bidjo. Vous trouverez que vraiment, les écoles vraiment qui se retrouvent là sont des écoles vraiment qui ne méritent pas que ça soit appelé les écoles de l'État, quoi. Donc, nous déplorons tout ça parce que les groupes armés sont vraiment en activité. À tout moment, quand les activités se reprennent normalement, ils apparaissent juste pour venir incendier, détruire. Il y a même les cas de vagues violentes pendant la période pluvieuse et qui vient emporter des toitures, tout qu'on sort. Alors, le territoire de Djougou, je peux estimer au moins 75% des écoles qui ne sont pas vraiment à bon état.
C'était Dieu merci Ounega, enseignant du complexe scolaire Lisungi de Mongualou dans le territoire de Djougou. Il s'entretenait avec Ezekiel Mouzalia. Le budget 2024 est déficitaire. Cela a été détecté depuis 2023 lors d'une rencontre de syndicalistes à Bibois. Ce budget ne pourra jamais payer les enseignants car le gouvernement n'a rien prévu pour les enseignants. C'est ce qu'affirme Baala Chamava Innocent, président provincial de la structure Force syndicale nationale du Nord Kivu, une plateforme qui réunit les enseignants du Nord Kivu. Il est au micro de Clarisse Kapinga de la radio communautaire Nissi de Goma.
Oui, bonjour journaliste, ici c'est Baala Chamava Innocent, président provincial de la FOSINAT Nord Kivu. Et nous voulons parler par rapport au budget de l'éducation alloué à l'enseignement. Ce que nous devons d'abord dire aux gens est que le gouvernement congolais, lorsque nous avons été à Bibois, nous avons confronté le budget 2023 et le budget 2024. Et nous avions détecté qu'il y avait un manquement. Donc le budget 2024 par rapport à la rémunération des enseignants était un budget déficitaire. C'est comme ça qu'on avait fait un PV pour proposer les actions que le gouvernement devait réaliser en faveur des enseignants. Mais tout en sachant que l'argent, le gouvernement n'avait rien prévu pour les enseignants. C'est pour cette raison que nous sommes en train de dire aux uns et aux autres de bien se préparer, car si ce gouvernement ne réalisait pas ce que l'on s'était convenu à Bibois, notamment payer les enseignants NP qui restaient encore dans les fichiers, majorer les 20 000 francs sur la prime de gratuité des enseignants, mais aussi majorer les salaires des enseignants en général. Et franchement, ici, à la rentrée scolaire 2024-2025, je ne vois pas cet enseignant avec cette misère qui peut se retrouver encore en classe. Parce que tel que vous le savez aujourd'hui, l'enseignant touche moins de 100 dollars dans la ville de Goma et c'est très dangereux. Alors, nous sommes en train de dire, aujourd'hui, les enseignants sont en train d'aller en vacances d'une façon médiocre avec cette misère. En tout cas, nous sommes en train de dire, si ici à la paye du mois de juillet, le gouvernement ne fait rien, en tout cas, adieu l'enseignement en République démocratique du Congo.
Merci à Bahala Chamava Innocent, président provincial de la structure Force syndicale nationale, qui répondait aux questions de Clarisse Kapinga de la radio communautaire Nissi de Goma.
Okapi, Metabendi Yamani.
Les enseignants de Ijui se plaignent des difficultés qu'ils rencontrent car le budget alloué à l'éducation ne cadre pas avec les défis de l'enseignement dans le pays. Ils accusent le gouvernement de manquer de volonté pour relever l'enseignement. Ils sont au micro de Albert Sinyabunguba de la radio Kalinga à Ijui.
Lavoisier Maskilizano Baraka, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous voudrions savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'enseignement.
En tout cas, bon, nous avons beaucoup de difficultés. J'ai du mal à énumérer, mais je vais les citer en passant. Il y a plusieurs volets chez l'enseignant, chez le parent, chez l'État aussi. Je vais commencer par l'enseignant parce que je suis enseignant. Nous sommes mal payés. Le salaire qu'on nous donne n'est pas capable de couvrir les deux bouts du mois. Donc c'est un salaire médiocre. C'est pourquoi de temps en temps nous faisons la comparaison avec les salaires que les députés touchent. Nous les avons formés, mais jusqu'à aujourd'hui nous sommes négligés. Et nous quittons à la maison pour aller au boulot. Nous n'avons pas les deux pieds sur terre. Parce qu'on connaît que si j'arrive à la maison, je vais dormir ventre creux. Je n'aurai pas la force d'enseigner le lendemain. Là, on est décis. Et pour le gouvernement congolais, bon, on ne sait pas qu'est-ce qui manque pour ne pas supporter les uns les autres. Nous pensons que c'est un manque de volonté. Parce que le gouvernement, l'État est capable de tout. Parce qu'il y a l'État Providence. Il devrait nous subvenir. Il devrait essayer de supporter toutes ces charges parce que nous sommes à sa disposition. C'est ça un peu, monsieur le juge. On a décrété la gratuité et les gens, bon, semblent accepter. Et lorsque nous avons lutté en tant qu'enseignants, l'ancien ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a commencé à désactiver certains d'entre nous, ce qui a montré qu'il n'y a pas vraiment la liberté d'expression dans les pays quelquefois. Nous demandons au gouvernement de chercher les mesures d'accompagnement pour que cette gratuité puisse évoluer. Si on pourrait comprendre que l'enseignant de l'école primaire a 500 dollars, l'enseignant de l'école secondaire a 600 dollars, plus ou moins on pouvait comprendre la situation comme ça. Néanmoins, aujourd'hui, vous comprendrez que l'enseignant a 80 dollars par mois, quel que soit le niveau d'études que vous avez. Je suis licencié, mais je ne dépasse pas 250 000. Alors que celui qui est à Kinshasa comme moi touche plus de ce montant-là. Et les banques commencent à nous prendre n'importe comment. Chaque banque gère les gens comme... C'est comme si l'État ne s'implique plus dans ce secteur de l'enseignement.
Maombi Eli, bonjour.
Bonjour mon ami.
Vous êtes enseignant, nous voudrions savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez lors de vos enseignements.
Il y a un mois qui est en train de prendre plus même de 45 jours. Et quand on s'attendait d'abord au salaire, le salaire aussi devient aussi dérisoire. Et quand là, vous allez voir le salaire qui est écrit sur les guichets, quand on reçoit, ça devient alors dans la diminution alors, de ces salaires. Alors vous allez voir que sur le plan financier, on était en train d'estimer aussi avoir un montant d'abord qui peut, au moins qui pouvait alors satisfaire à certains besoins. Mais malheureusement, parce que vous allez voir que les montants là-bas sera réussi en besogne, ou si on ne sait pas comment alors partent les différents frais, voilà, on constate que sur le plan financier, il y a des difficultés d'abord dans les systèmes éducatifs.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous pouvez vous présenter?
Oui, je suis Agan Zebizibou Noël. Je suis enseignant à l'Institut Bougarou, là, à Iju Nord. Et puis, je suis ici à Iju Sud pour suivre les cours à l'ISP Iju.
Maintenant, nous voudrions savoir de vous, quelles sont les difficultés que vous êtes en train de rencontrer dans l'enseignement?
En fait, les difficultés que nous rencontrons dans l'enseignement, vraiment, sont énormes. Hein? Aujourd'hui, si vous constatez bien, l'enseignant n'est pas bon payé. Et cela cause problème sur tout le plan. Parce que quand on n'est pas bien payé, on ne peut pas aussi très bien faire le travail. Vous vous imaginez quand on paye à un enseignant, mais le salaire qui est insuffisant même pour lui faire vivre un mois. Vous comprenez ça qui est déjà un problème. C'est-à-dire que moi, je pense que si on payait très bien l'enseignant, lui aussi pouvait en tout cas très bien faire son travail. Et je suis sûr qu'il le fait. Mais à un certain moment, on est fatigué, on est un peu déçu là de voir que le gouvernement en tout cas ne s'occupe pas des enseignants. C'est ça ce que je peux dire, surtout pour ce qui concerne le PMA. Je peux aussi dire ensuite le problème aussi de l'éducation au niveau national. L'éducation au niveau national, nous avons une part de responsabilité en tant qu'acteurs de l'éducation. D'abord, du point de vue nos enfants que nous éduquons aujourd'hui, en tout cas, vous voyez que ils ne se donnent plus aux études. Mais aussi le problème de parents. Mais aussi, je ne peux pas ne pas le dire, le problème de certains enseignants aussi. Mais la grande part revient au gouvernement. Vous voyez ça?
Est-ce que le fait de ne pas être dans de bonnes conditions, mauvais salaire,
ouais,
puisse aussi vraiment gangréner ou suggérer et monopoliser sur l'éducation?
Oui, oui. Le fait qu'on est mal payé peut aussi gangréner les difficultés qu'on rencontre dans l'enseignement. Vous voyez ça? Les difficultés qu'on rencontre dans l'enseignement. Les exemples sont plus nombreux si vous voyez, vous essayez de le voir. Aujourd'hui, c'est l'enseignant qui est plus endetté dans le milieu. Il arrive le 30, quand il a déjà même fini son salaire.
Mais on dit que on vous a déjà augmenté quelque chose.
Quoi? Comme quoi, par exemple? Si on dit qu'on a augmenté, mais c'est seulement le nom, dire qu'on a augmenté. On est en train de retrancher au lieu d'augmenter.
Est-ce que cela ne puisse pas être le problème de banque où vous vous rendez?
Le problème de banque, oui, on peut en avoir, mais aussi le ministère de l'Enseignement, ceux qui payent au fait au niveau de la République, devraient se rendre compte de tout cela.
Et les taux d'échange par rapport à vous,
oui,
ça pose
pour vous. Le taux d'échange, vous vous imaginez, aujourd'hui, si on essaie de convertir l'argent d'un enseignant, 240 000, 247 000, je sais pas, 200 combien de 1000, si vous essayez de voir, c'est même pas $100 aujourd'hui. Certains même, le taux, on ne sait même pas maîtriser les taux. Certains sont à 2800, d'autres à 2900. Donc, c'est du tohu-bohu. On ne sait pas comprendre les choses là. On ne sait pas.
Merci beaucoup.
Oui, merci beaucoup, journaliste.
Merci Albert et Sinia Bougouba de la radio Kalinga à Idjoui.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ce programme, le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
L'éducation pour tous les enfants en Afrique, l'heure est venue. L'UNICEF a publié à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain de nouvelles analyses sur le financement de l'éducation qui montrent que la plupart des pays africains ne remplissent pas leur engagement d'allouer 20% de leur budget national à l'éducation, comme le recommande le cadre d'action pour les objectifs de développement durable pour l'éducation. Dans la deuxième partie de cette émission avec nos invités. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Radio Okapi.
Radio Okapi, le souffle du Congo.
Dans son communiqué à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain, l'UNICEF déclare que l'une des solutions les plus efficaces et les plus rentables consiste à accroître les investissements publics dans la petite enfance, car les études confirment que les investissements dans le préscolaire sont parmi les plus percutants que le gouvernement puisse soutenir. Michel Otto, expert en éducation préscolaire, abonde dans le même sens que UNICEF. Il a été joint par Gisèle Cage.
Je voudrais abonder dans le même sens que UNICEF. UNICEF est dans le droit chemin parce que les études scientifiques montrent clairement que plus on investit plus tôt, plus les résultats sont bons. D'autres scientifiques disent ceci. Les habitudes les plus solides sont celles que l'on acquiert avant 6 ans. Il est démontré également que 85% du cerveau de l'enfant se développe avant l'âge de 6 ans. Et cela étant, avec ces évidences, il n'est qu'une recommandation logique et pertinente que les gouvernements de façon générale et africains en particulier puissent suffisamment investir dans le préscolaire. Et ça, c'est vraiment une très bonne option prise par l'UNICEF que nous, en tant qu'opérateurs pédagogiques du préscolaire, nous, en tant qu'experts, nous soutenons vivement parce que il faut rappeler que la déclaration de Tashkent de 2022 en Ouzbékistan a clairement reconnu le fait que a fait une recommandation que chaque pays puisse rendre obligatoire et gratuite le préscolaire de qualité. Et au Congo, on n'est pas encore arrivé à ce point-là.
Êtes-vous de cet avis que la faiblesse des résultats de l'apprentissage reste très préoccupante en RDC et qu'en Afrique, 4 enfants sur 5 âgés de 10 ans sont incapables de lire et de comprendre une histoire simple? Est-ce que c'est une réalité?
C'est une réalité. Vous savez, beaucoup de gens risquent de dire que non, c'est pas vrai parce qu'ils voient peut-être là où ils sont. D'être à Kinshasa, à ma campagne, d'être à Brazzaville, au plateau de 15 ans au centre-ville, vous êtes à Ouagadougou, en plein Ouagadougou, vous n'avez pas la vraie image du pays et du continent. Madame Cash, c'est très sérieux. Je confirme encore que beaucoup d'enfants de 10 ans ne savent ni lire, ni écrire, ni calculer et ils sont incapables de comprendre une partie d'une histoire. C'est vrai, mais cette image-là risque de ne peut susciter beaucoup de controverses, surtout pour ceux qui vivent dans des milieux urbains. Nous qui sommes à la fois sur terrain, en milieu urbain et ruraux, je vous confirme encore que nous avons une difficulté. Et cela peut se confirmer même à travers les adultes que nous sommes. Beaucoup d'enseignants sont là, qui ne savent pas très bien lire, pas bien écrire. Ils sont nombreux dans nos pays africains, mais ils tiennent des classes à la fois préscolaires et primaires. Il est donc grand temps, au lieu de pleurer demain, que nous puissions investir suffisamment au niveau de la base, au niveau de la source, pour couper le mal au niveau de la source, afin que les enfants qui passent par le préscolaire soient suffisamment formés, afin de pouvoir avoir des citoyens bien formés au niveau du primaire et dans la vie de demain.
Les besoins du système éducatif congolais est plus immense selon David Diatezoa Mpongi, président national de l'Association nationale des parents, d'élèves et des étudiants en RDC. Pour lui, il faut au moins 6 milliards de dollars par an pour financer le système éducatif en RDC. On l'écoute.
Les besoins du système éducatif congolais sont tellement immenses que 1,8 milliard de dollars américains ne couvre pas l'ensemble des besoins. Et toutefois, comme c'est quand même un effort qui a été fait, nous félicitons le gouvernement, mais alors nous demandons que les affectations soient faites de telle manière que on ne fasse pas du saupoudrage. Nous ne voulons pas du saupoudrage, qu'on appuie quelques projets bien identifiés et visibles pour rendre tant soit peu service au système éducatif.
Et vous voulez que ça soit dispatché de quelle manière et dans quel projet exactement?
Il faut que les affectations soient faites judicieusement pour que ça ne soit pas du saupoudrage. Je pense qu'on devrait cibler d'abord la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire parce qu'il y a eu trop de problèmes pour que cet enseignement soit de qualité à cause du trop plein d'élèves dans les salles de classe. Il est évident que le nombre de bâtiments scolaires sont insuffisants et donc intensifier un programme d'urgence pour la construction des écoles, surtout là où il y a une forte densité de la population. Ça, c'est de un. Ensuite, de deux, à l'enseignement supérieur, les besoins se font sentir aussi. Et il faut que les grandes universités, qu'on puisse favoriser la construction d'autres grandes universités pour délocaliser un peu le trop-plein d'étudiants sur un seul site. Le pays est vaste. Comment ne pas construire d'autres universités, mettre ça sur un programme court, moyen et long terme pour que chaque année, on voit émerger des nouvelles constructions des universités. Voilà un peu, madame. Donc, quand je parle de construction, y compris l'équipement, puisque l'équipement doit suivre les constructions.
Dans son communiqué à l'occasion de la journée de l'enfant africain, UNICEF donc déplore que le gouvernement africain consacre environ 2% de leur budget d'éducation à l'enseignement pré-primaire, tandis que 20% sont consacrés à l'enseignement supérieur en moyenne. Êtes-vous de cet avis-là?
Bon, comme je disais, les besoins sont immenses. Pour le pré-primaire, qui constitue la base d'accueil des enfants dans la scolarité. Il faut qu'on donne aussi les moyens pour accompagner les pré-primaires afin qu'ils soient vraiment attrayants et que beaucoup de parents puissent envoyer leurs enfants pour aller commencer l'apprentissage là-bas dans les pré-primaires.
Donc, on peut conclure quand même que 1,8 milliard de dollars pour l'éducation reste insuffisant en RDC. Il faut à peu près combien selon vous?
Je pense que le jour où on pourra augmenter les ressources pour densifier le budget affecté au secteur de l'éducation, quand on aura 6 milliards par an en 10 ans, alors la RDC se sera consolidée dans l'éducation. Et donc, si on fait 6 milliards pendant 10 ans, madame, nous allons asseoir un système éducatif enviable et tant sur le plan national qu'africain.
Le budget alloué n'est pas à la hauteur des attentes des besoins de l'éducation en RDC. Serge Bondeli est secrétaire général de l'ONG IMAYE, une organisation spécialisée sur les questions d'éducation et des jeunes. Il est l'invité de Gisèle Cage.
Suivez. Monsieur Serge Bondeli, bonjour.
Bonjour, madame Gisèle.
Vous êtes secrétaire général de l'ONG IMAYE. Le gouvernement congolais alloue plus de 1,8 milliard de dollars pour le secteur de l'éducation en 2024. Pensez-vous que ce budget est réaliste?
Bon, vous savez, allouer le budget, c'est une chose. Partant de l'expérience qu'on a dans notre pays, souvent on alloue, mais la consommation pose problème. De telle en sorte qu'à la fin de l'exercice budgétaire, on se rend compte qu'il y a de ces dépenses qui ne sont pas effectuées, ces crédits qui ne sont pas consommés. Ça, c'est le premier aspect des choses. Deuxièmement, 1 milliard et quelques, c'est bien, mais est-ce que ça représente réellement les engagements internationaux en termes d'engagement budgétaire? Il y a la déclaration de Dakar qui a réuni les États et qui a demandé à ce que chaque État alloue environ 22% de son budget à l'éducation. Mais lorsqu'on fait l'analyse, dans notre pays, il n'y a eu que l'année, si je ne me trompe pas, 2017 ou 2018, que l'État a pu atteindre ses targets, mais après ça, nous sommes retombés en deçà et le budget actuel représente, si on fait les calculs, je crois, entre 16 et 17% par rapport à 22, par rapport au budget national, donc ce qui est en deçà des engagements internationaux. Ça, c'est un tableau que je peins. Mais est-ce que c'est à la hauteur des attentes? Je ne pense pas, parce que l'expérience nous renseigne que à chaque fois qu'il y a ces budgets, là, ça concerne d'abord les quatre secteurs qui composent ou qui forment le secteur éducatif de manière formelle. Donc, l'enseignement primaire, secondaire et technique, l'enseignement supérieur et universitaire, les affaires sociales et la formation professionnelle. Et dans ces budgets, il faut aussi souligner que la plupart des dépenses sont affectées à des dépenses, permettez la tautologie, où la plupart des lignes ou des crédits concernent les dépenses liées à la rémunération du personnel enseignant. Il y a donc moins de dépenses en termes d'investissement, moins de dépenses en termes de l'amélioration ou du maintien de la qualité. Voilà ce que je peux dire d'emblée en ce qui concerne ces budgets. C'est quelque chose, mais ce n'est pas à la hauteur des attentes, parce que la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation qui touche à sa fin, je crois que c'est l'année prochaine, renseigne qu'il faut au moins 2,4 milliards de dollars l'an pour que les actions préconisées dans le cadre de la stratégie soient effectivement mises en œuvre.
Parce que ça a été même relevé par UNICEF que moins d'un pays africain sur 5 atteint le seuil de référence en matière de financement de l'éducation, et que le gouvernement africain consacre environ 2% de leur budget d'éducation à l'enseignement préprimaire, tandis que 20% sont consacrés à l'enseignement supérieur en moyenne. D'après vous, Monsieur Serge, quel budget devrait être consacré à l'enseignement préprimaire, primaire et secondaire en RDC?
Déjà, en termes de besoins, si je me réfère à la stratégie sectorielle, il faut un budget conséquent qui permet à ce qu'au niveau, par exemple, du préscolaire, qu'on puisse finaliser la réforme sur le préscolaire. C'est-à-dire, puisque la plupart qu'on voit au niveau de préscolaire, ce sont des écoles maternelles, alors que et ces écoles maternelles sont pour la plupart des cas soutenues par le privé. Et quand ce sont le privé, nous en connaissons les conséquences, notamment en termes de disparités et des inégalités sociales, en tenant compte au pouvoir d'achat de la majorité des Congolais. C'est pour cela que la stratégie sectorielle a préconisé la mise sur pied de classes de pré-primaire. Donc, universaliser les classes du pré-primaire, ce qui implique qu'on crée à travers le pays ce qu'on appelle des centres d'éveil pour l'enfant, des centres communautaires d'éveil pour l'enfant. Et ça requiert suffisamment d'argent pour ériger ces centres, les entretenir et surtout les équiper, parce que l'éducation pré-primaire, la formation pré-primaire demande suffisamment de matériel, suffisamment des intrants et surtout un personnel qualifié. Il est vrai qu'au niveau de l'enseignement national, il y a maintenant une inspection ou un service de l'inspection qui s'en occupe. Donc, il y a quand même des avancées du point de vue structurel, mais dans la faisabilité, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Au niveau du primaire, il est vrai qu'on parle aujourd'hui de la gratuité de l'enseignement primaire. Nous avons combattu pour cela, nous avons mouillé les maillots, nous l'avons défendu, mais il est temps. De 2019, bientôt ça fera 5 ans, ça fera 6 ans plutôt bientôt, je crois l'année prochaine. Donc l'enfant qui a accédé à la première année primaire en 2019 pourra atteindre le point d'achèvement l'année prochaine. S'il faut faire le bilan, en tout cas, il y a des choses qu'on doit se dire avec le gouvernement. Comment on peut comprendre que la gratuité qui demande à ce que les évaluations soient prises en charge par l'État, on parle ici de l'ENAFEP, mais ça va faire 3 ans, ce sont des parents qui payent l'ENAFEP. Et si vous pouvez vous rappeler, il y a 2 ans ou une année ou l'année passée, où le ministère était obligé de reporter la date de l'ENAFEP, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'argent. Ça, c'est de un. Et de deux, là, c'est du point de vue, les évaluations. De deux, en termes du maintien de la qualité, on ne peut pas réduire la gratuité à la simple question du paiement des salaires des enseignants. Et surtout lorsqu'on sait que le salaire qui est payé n'est pas celui convenu à l'issue des travaux de la table ronde. Lors de la table ronde, il a été convenu qu'il y aura augmentation en termes de paliers.
Mais malheureusement, dans la pratique, c'est autre chose. C'est l'issue, certes, de consensus, du dialogue, mais entre-temps sur terrain, on sent un répit de la part des enseignants. On sent un relâchement de telle en sorte que la pratique de paiement de frais de motivation a repris de l'espace de manière latente. Donc, ce qui montre qu'en termes de la prise en charge des enseignants, il faut un budget conséquent. Mais, comme je disais, ce n'est pas seulement la question de la prise en charge des enseignants, mais les investissements, le maintien de la qualité. Combien d'écoles primaires, publiques, où la gratuité est mise en œuvre, disposent des bibliothèques scolaires? C'est extrêmement grave. Donc, on va former les enfants, bien sûr, en ayant un accès gratuit, mais lorsqu'ils n'ont pas l'accès à la lecture, aux livres, on forme quel type d'enfant? Vous avez ce qu'on appelle l'école du dehors, notamment dans les pays francophones, c'est-à-dire promouvoir les cours d'observation parce que le jeu a une importance cruciale dans la formation des enfants. Mais le budget qui est consacré pour la gratuité de l'enseignement primaire, du point de vue fonctionnement des établissements, ne saura pas assurer la soutenabilité des cours d'observation, d'où il faut recourir aux parents. Mais la nature est en horaire du vide lorsque les écoles cherchent plutôt à s'organiser, ça ne produit pas le résultat escompté. Donc, si je peux me résumer que sur ces quelques points, ça montre qu'au niveau de l'enseignement primaire, il y a beaucoup de choses à faire. Et si nous continuons dans cet allure, on ne peut pas s'empêcher de croire à un génocide intellectuel qui est perpétré en République démocratique du Congo. Si je m'en vais au niveau de l'enseignement secondaire, mais là c'est encore plus grave. C'est encore plus grave en termes de d'abord du maintien des établissements en soi. Ce sont des écoles qui n'ont pas de frais de fonctionnement, mais qui survivent grâce aux motivations payées par les parents. Mais les écoles secondaires n'ont pas assez de la qualité. Ce sont quelques-unes qui sont peut-être occupés par des familles nantis qui essayent de se démerder. Combien d'écoles disposent des bibliothèques secondaires? Combien disposent des laboratoires? Combien disposent des ateliers pour ceux qui sont dans les options techniques? Autant de défis que l'État jusque-là n'arrive pas à combler. Voilà pourquoi la stratégie a préconisé 2 milliards, 400 millions de dollars à l'an pour pouvoir, de manière globale dans les secteurs, essayer de faire quelque chose pour que le système fonctionne. Et comme on a dit ici, le budget, c'est pas seulement l'enseignement primaire, secondaire et technique, ni préscolaire, mais il y a aussi l'enseignement supérieur et universitaire. Aujourd'hui, les LMD qui bat de l'aile, tout simplement parce que tout doit se préparer au niveau de la base. Si nous prenons au niveau des affaires sociales qui s'occupent notamment des groupes vulnérables de l'éducation, mais Madame Gisèle, je vous dis, à Kinshasa, faites un tour dans la commune de Kinshasa où il y avait un foyer, faites un tour dans la commune de Kassavubu où il y avait un foyer, faites un tour à Lingwala, sur Mouchi, là où étaient hébergées les personnes vivant avec handicap, à Kitambo, je crois qu'on appelle Babylone, là où il y avait aussi un foyer pour la prise en charge des personnes vivant avec handicap. Je peux vous en citer comme ça, plus de 17. Tous ces espaces destinés à accueillir les personnes vulnérables de l'éducation sont en proie à la vente, si pas dire à des spoliations. Donc, comment on peut espérer à un budget avoir un enseignement de qualité si le budget n'est pas à l'attente de la hauteur des attentes? Voilà un peu de manière ramassée. Je vous ai pas cité des centres des jeunes. Rien que cela, ça montre qu'il y a un sérieux problème.
Il faut réorganiser le système social des enseignants, propose Serge Bondeli. Toujours dans cet entretien avec Gisèle Cage, il fait une évaluation de la gratuité de l'enseignement. Suivez.
Le montant là, ça représente un refrain habituel, un rituel auquel nous sommes habitués, la prise en charge salariale, qu'il faut reconnaître qui est aussi déficitaire. On parle certes de l'augmentation, mais nous ne cessons de dire que pour aborder la question de l'amélioration de la qualité socio-professionnelle des enseignants, bien que nous ne sommes pas une organisation syndicale, mais nous continuons à prodiguer des conseils. Mmh. Il faut des approches beaucoup plus globalisantes suivant les standards et principes de droits humains auxquels la République démocratique du Congo s'est engagée. Mmh. On peut aujourd'hui ramener le salaire moyen à 1 000 $, mais nous faisons partie de pays à économie à risque. C'est-à-dire qu'il y a l'inflation qui est quasi permanente avec un taux très élevé. L'enseignant de 2016 que le régime du président Kabila avait donné le barème des 100 $ s'est vu perdre son pouvoir d'achat à cause de l'instabilité de l'inflation, plutôt de l'inflation, de l'instabilité du taux d'échange. Aujourd'hui, en 2019, lorsqu'il y a eu réajustement du taux des salaires, ça représentait presque 200 $, le 256 000 francs. Mais aujourd'hui, c'est presque 85 $. Lorsqu'on préparait l'appui budgétaire avec la Banque mondiale, nous l'avons dit aux experts de la Banque mondiale, aux installations du secrétariat permanent d'appui de coordination du secteur de l'éducation. Nous avons dit en son temps aux experts de la Banque mondiale, il faut aider le gouvernement à organiser le système social des enseignants pour assurer leur stabilité sociale en termes d'accès aux avantages sociaux. Si de ces côtés-là, on aborde les questions suivant cette approche, je crois qu'on résoudra beaucoup de problèmes au lieu de s'attaquer qu'à l'augmentation des salaires. C'est-à-dire quoi de manière concrète? Il faut des politiques sur notamment la question liée au logement. Nous apprécions à son juste titre la politique sur la gratuité de maternité et des soins des nouveau-nés parce que ça, je crois que ça entre dans la danse, mais il faut davantage aller très loin. Il faut davantage aller très loin lorsqu'on sait garantir cette sécurité sociale au personnel enseignant et à l'ensemble des fonctionnaires de l'État de manière globale. Je crois que ça va aider beaucoup, ça va beaucoup contribuer parce que si on reste qu'avec seul challenge, seul défi, la question salariale, alors que c'est une donnée qui est très variable au regard des paramètres externes et internes, on va continuer à vivre dans ces cercles qui apparaissent vicieux.
Monsieur Serge Bondeli, revenons d'abord à la gratuité de l'enseignement. La politique de la gratuité a notamment eu comme impact l'augmentation des effectifs scolaires, le besoin en termes de classes additionnelles, le manque d'équipements scolaires et matériel didactique, pour ne citer que ceci. Pensez-vous qu'il faille maintenir la gratuité de l'enseignement où elle doit être révisitée?
Concernant la gratuité de l'enseignement, il y a quand même intérêt de faire remarquer deux bémols importants et suivi des autres qui n'ont pas aidé à la stabilité et à la coûtenance de la mesure. D'abord, il y a eu le bémol de septembre 2019 et celui de septembre 2020-2021. On a lutté pour que la gratuité soit celle de l'éducation de base. Il y a le gouvernement qui a estimé en son temps qu'il y avait raison technique, notamment la non-maturation de la réforme sur l'éducation ne permettant pas d'assurer la prise en charge des enseignants du secondaire. Ça, c'est de un, on avait compris. Et deuxièmement, effectivement, des questions de moyens. Alors que le cadre légal de la gratuité exigeait à ce que cette gratuité implique ou concerne l'éducation de base, donc de la première année primaire jusqu'à la 8e année de l'éducation de base. Et en 2020-2021, c'est le même bémol. On a consenti, le gouvernement a estimé qu'il était mieux disposé à assurer la gratuité de l'enseignement primaire. Mais malheureusement, il n'y a pas eu la vidéo, il n'y a pas eu les documents des politiques pour pouvoir s'assurer d'une bonne mise en œuvre de la mesure. Et il y avait certaines actions qui devraient être prises en compte ou engagées. La révisitation de la loi cadre de 2014, parce qu'il fallait clairement sur le plan légal faire mention de la non-perception des frais au niveau des classes concernées par la gratuité. Mais ça n'a pas non plus été fait. Ce qui a été fait jusque-là, c'est sur base des convenances, des options levées à la table ronde. Mais aujourd'hui, la réalité sur terrain fait état d'une situation calamiteuse au niveau des écoles concernées par la gratuité. Mmh. Les gens ne doivent pas se leurrer sur ce qui se passe à Kinshasa. Il faut surquiler le pays. Il faut aller dans le coin et recoin du Congo pour sentir la disette, pour sur la misère qui scie les côtes du personnel enseignant, du personnel éducatif, pour vivre la pauvreté qui scie les côtes, ceux qui sont censés conduire ou mettre en œuvre politiques éducatives. Mais on ne peut avoir que des larmes. Aujourd'hui, nous pensons, en tout cas pour nous, la gratuité comme organisation qui prône pour les droits humains, notamment le TESC, droits économiques et sociaux, c'est une réussite irréversible. Le gouvernement ne peut pas parler qu'il y a manque d'argent. Nous sommes témoins de tout ce qui se dit à travers les rapports de l'IGF. Ça nous montre que l'argent il y a en République démocratique du Congo.
Mais c'est juste pour un manque de volonté. Il y a juste un manque de volonté.
Effectivement, il y a un problème de volonté. Si l'Assemblée nationale peut aller au Canada pour 22 personnes, mais qu'est-ce qui manque pour qu'on réhabilite l'institut de formation des enseignants du primaire qui existe à Kisangani? Qu'est-ce qui manque qu'on multiplie autant des instituts de formation de maîtres du primaire à travers le pays? Est-ce que c'est l'argent? Alors l'argent qu'on a donné pour les lampadaires, l'argent qu'on a donné à plus de 350 000 dollars l'unité de forage. Donc nous pensons qu'il y a un problème de volonté politique. Donc tout ce que nous pouvons vivre sur le terrain faisant montre de problèmes de coutenance de la mesure, nous pensons que ce sont des prétextes qu'on peut facilement balancer. C'est une mesure irréversible. Le gouvernement doit éclaircir sa position parce que l'accès, le droit d'accès gratuit à une éducation de qualité, c'est un droit imprescriptible pour chaque enfant, surtout si on veut vivre dans un monde en constance, en paix, parce que la place d'un enfant, c'est à l'école et non en dehors de l'école. Mais au-delà de ça, où est-ce que nous en sommes avec l'obligation scolaire? On ne peut pas comprendre, pendant que nous parlons de la gratuité de l'enseignement, si vous êtes sur le boulevard des 30 juin, sur Mandela, sur boulevard Triomphal, sur Sendoué, un peu partout à Kinshasa, comme en province, à Lubumbashi et ailleurs, à Goma, que vous puissiez trouver des enfants en train d'accompagner les personnes vivant avec handicap, ou soit des enfants qui demandent de l'argent au lieu de rester dans les écoles. Donc il y a lieu de réévaluer les choses, mais nous restons ouverts et flexibles. En son temps, nous l'avions dit à l'ancien secrétaire général Jean-Marie Mangobe Bomongo, que la gratuité comme toute mesure qui relève des droits, il faut réévaluer, mais nous restons flexibles et ouverts. Nous savons que comme mesure qui relève des DESC, qui relève des droits économiques, sociaux et culturels, nous savons et nous allons faire preuve de flexibilité et de compréhension républicaine, surtout humanitaire. Et comme question relevant des DESC, il y a d'abord le premier caractère qui est celui de la progressivité, ça c'est de un, et de deux, la priorité à accorder aux plus vulnérables. Nous pensons et nous conseillons au gouvernement, parce que nous savons qu'il peut, au regard de beaucoup de paramètres endogènes comme exogènes, au regard de beaucoup de paramètres, notamment sécuritaires auxquels le pays est confronté, peut, comme tout gouvernement dans le monde entier, faire face à plusieurs défis. Voilà pourquoi nous allons militer, nous allons concéder, si c'est possible, pour la réévaluation de la mesure. Et en ce moment-là, le gouvernement doit aussi éviter de donner un caractère politique à la mesure. Parce que le gouvernement, aujourd'hui, se voit buté, même s'il ne veut pas le dire, mais nous comprenons et nous savons, il s'est pris dans son propre piège. Le gouvernement a fait de cette mesure une question de propagande politique et aujourd'hui, il est essoufflé. Donc, il faut, nous pensons et nous allons conseiller, donner priorité aux plus vulnérables. Aux plus vulnérables, de manière en sorte qu'au fil du temps, la mesure, si elle sera coulée dans un document de politique, c'est notre souhait de, depuis 2019, définir clairement le champ progressif de cette mesure, les bénéficiaires et autres questions des politiques publiques qui doivent être figurées dans ces documents, de manière en sorte que la mesure reste irréversible, mais sa soutenabilité soit assurée dans les temps et dans l'espace.
Monsieur Serge Bondeli, je rappelle que vous êtes au secrétaire général de l'ONG Imaye. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions.
C'est à moi de vous remercier.
Le budget de l'éducation continue à poser problème jusqu'à ce jour. Selon Jean Bosco Pouna, porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Pour lui, le budget aligné ne pourra pas permettre que le travail puisse se faire correctement. Jean Bosco Pouna, dans cet entretien avec Gisèle Cage.
Monsieur Pouna, Jean Bosco, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes porte-parole de la synergie des syndicats, des enseignants de la RDC. Le gouvernement congolais alloue plus de 1,8 milliard de dollars pour le secteur de l'éducation en 2024. Peut-on parler d'une avancée dans le secteur de l'éducation?
Bon, il est difficile de pouvoir parler d'une avancée. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a quand même des efforts qui sont fournis par le gouvernement. Mais devant les difficultés que nous avons par rapport à ce secteur, il est difficile de pouvoir croire que ce budget tel qu'est aligné pourra résoudre les vrais problèmes qui se posent dans le secteur. Parce que dans le secteur, il y a des problèmes réels qui se posent. Le tout premier, c'est la prise en charge du personnel enseignant. Jusqu'à ces jours, et bien auparavant, et bien l'enseignant congolais avait toujours des problèmes. Donc, si un enseignant qui preste, que ce soit au préscolaire, que ce soit au primaire, au secondaire ou à l'université, au primaire déjà, primaire, secondaire, vous voyez des enseignants sous mot de gratuité qui n'atteignent pas 200 dollars, vous comprenez que même le budget qui est aligné là ne pourra pas permettre que le travail puisse se faire correctement. Voilà pourquoi nous avons proposé au niveau de la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo, nous avons proposé au gouvernement une proposition de politique salariale. Et dans cette politique, vous allez voir que l'enseignant au primaire pourra toucher un minimum de 700 dollars. Et si l'enseignant a ce minimum-là, ça peut lui permettre de pouvoir bien faire le travail et d'éviter que la gratuité ne soit qu'au niveau de la forme et que ça puisse aller jusqu'au fond. Donc, je parie que le budget de l'éducation continue à poser des problèmes jusqu'à ce jour.
Donc 1,8 milliard de dollars, c'est trop peu pour le secteur de l'éducation.
Bon, je ne sais pas comment le gouvernement va devoir le dispatcher. J'ai dit que c'est déjà quelque chose. Bon, en termes de pourcentage, il faudrait que nous ressortions cela. Mais je rappelle ici que pour le deuxième mandat, nous tous, tous les enseignants jurent sur la politique salariale. La politique salariale va permettre qu'on puisse équilibrer les rémunérations qui sont données. Vous comprenez, il y a des gens qui touchent des sommes vraiment faramineuses, des salaires exorbitants, au moment où les agents de l'État, les enseignants, n'ont pas gain de cause. Il faut maintenant qu'il y ait convocation des travaux de la politique salariale pour que nous puissions voir si le gouvernement est capable à pouvoir donner un minimum de 700 dollars à l'enseignant. Je ne sais pas faire des calculs maintenant par rapport à ce budget qui est avancé, mais il faut impérativement qu'il y ait convocation d'une commission sur la politique salariale pour que nous voyons tous ensemble combien peut toucher un enseignant. La vie des enseignants aujourd'hui, vraiment, elle est précaire. Au-delà de la vie des enseignants, mais nous avons le fonctionnement des écoles. Vous savez que les écoles fonctionnent en mode gratuité, nous sommes au primaire, et au niveau secondaire, on a une fois de plus recouru aux parents. Nous savons, nous tous, que les parents n'ont pas de moyens. Ça veut dire que l'enfant qui termine le primaire n'a pas accès au niveau secondaire. Si ce budget peut aller, comme le président l'avait annoncé, l'ambition c'est d'aller jusqu'en 7e, 8e, eh bien il faut absolument mettre un financement public conséquent qui puisse permettre que le fonctionnement des écoles ne puisse pas être dérangé. Et il y a également tous les supports, les auxiliaires qui entourent le travail du maître. Donc le maître ne travaille pas sans support. Les supports, les fournitures, les laboratoires doivent être équipés. Tout ça, ce sont des éléments qui entrent dans les budgets de l'éducation. Mais je crois qu'à ce jour, le rendez-vous n'est pas encore au point. Nous sommes encore plus ou moins loin. Voilà pourquoi nous, au niveau de la synergie et même au niveau du SINECAT, nous en appelons à la convocation de ces travaux pour que les différents partenaires puissent se dire Qu'est-ce qui doit aller à l'éducation, au primaire, au secondaire, au préscolaire, mais aussi au niveau supérieur?
Monsieur Jean Bosco Pouna, selon l'UNICEF, l'une des solutions aussi le plus donc efficace et plus rentable pour améliorer l'éducation consiste à accroître les investissements publics dans la petite enfance, car les études confirment que les investissements dans le préscolaire sont parmi les plus percutants que le gouvernement puisse soutenir. Êtes-vous de cet avis?
Bon, je ne sais pas, l'UNICEF parle de quels investissements
publics. Là, il parle des investissements publics dans la petite enfance.
Bon, je crois que le gouvernement, lorsqu'il est mis en place, il connaît où est-ce qu'il faut trouver des moyens pour pouvoir soutenir ces différentes politiques. Bon, les investissements, oui, je crois, mais je n'ai pas véritablement des raisons de croire qu'il n'y a qu'au niveau de la petite enfance où on peut trouver le moyen. Vous savez, madame, lorsque vous quantifiez ce qui est détourné dans ce pays, mais ça pose véritablement des problèmes. Vous savez la hauteur de la corruption. Vous savez, en avril dernier, il y a l'IGF qui a fait un travail au niveau du fichier, l'audit du fichier dans l'administration publique. On a relevé plusieurs doublons, on a relevé plusieurs agents qui touchaient doublement. Et tout ça, c'est un véritable problème parce que lorsqu'on récupère cet argent ou on élague des fichiers paye, tous ces malfrats, je dirais, eh bien, on peut récupérer beaucoup d'argent qui peut être directement reversé dans l'enveloppe salariale des agents et fonctionnaires de l'État, des enseignants. Donc, moi, je crois que le gouvernement est le véritable et le premier responsable de la situation que nous vivons. C'est lui qui lance les investissements, mais c'est lui qui gère. Et donc, dans la gestion, c'est-à-dire, je vais parler des dépenses, si déjà à ce niveau-là aussi il y a des équilibres, il y a un problème. Mais au niveau des recettes également, si au niveau de la chaîne des recettes, eh bien, nous ne comptabilisons pas toutes les recettes que nous produisons, parce que ces recettes, parfois, vont dans les poches des gens, il y a un problème. Le secteur de l'éducation, me semble-t-il, c'est le secteur prioritaire. Et lorsque le chef de l'État lance la réforme de l'enseignement, qui s'appesantit sur la gratuité de l'enseignement primaire, eh bien, nous tous, nous avions cru que le gouvernement allait mobiliser le moyen qu'il faut pour que finalement cette gratuité puisse véritablement marcher. C'est-à-dire aussi bien au niveau de la forme qu'au niveau du fond. Parce que si la gratuité s'arrête au niveau de la forme, ça devient un véritable danger pour notre jeunesse. Donc, je dis simplement que le gouvernement a la politique publique du pays. C'est lui qui doit identifier les ressources, les canaliser et les dépenser de manière tout à fait orthodoxe. En ce moment-là, les secteurs prioritaires comme l'éducation, comme la santé, eh bien, ne resteront plus des parents pauvres. Et là, ça va véritablement améliorer la qualité des services publics, qui est un des piliers du programme d'action de Madame la Première ministre, chef du gouvernement.
Donc, en conclusion, pour avoir un enseignement de qualité, des enseignants qualifiés, il faut carrément accroître, il faut un bon budget, quoi, un budget conséquent.
Oui, un budget conséquent, madame. Regardez les pays comme le Nigeria, l'Égypte ou encore l'Afrique du Sud. Il y a des pays qui n'ont pas assez de ressources, mais qui allouent un pourcentage au budget de l'éducation. En 1960, eh bien, le budget de l'éducation était à 30%. Mais nous tous, nous savons ce qu'était l'éducation en République démocratique du Congo. Les pays qui nous environnent, eh bien, ils envoyaient leurs jeunes venir étudier chez nous. C'était vraiment presque l'Eldorado de l'Afrique. C'est-à-dire que même l'Ovanium, qu'il s'agisse également de notre enseignement moyen, eh bien, on l'enviait parce qu'on avait mis des moyens. 30% du budget, et de quel budget? Un budget qui avait une certaine hauteur. Mais aujourd'hui, on a beaucoup chuté, donc il est important que le gouvernement puisse mettre des moyens pour pouvoir financer l'éducation. Il faut également rappeler ici que le financement public pour une éducation de qualité est une obligation de l'État. Donc l'État ne peut pas se dérober de cette obligation-là. Il faut absolument mettre des moyens parce qu'il y a beaucoup de besoins qu'il faut prendre dans les secteurs. Et si les moyens sont réunis, laissez-moi vous dire que cette gratuité qui doit aller plus loin pourra réellement servir à notre jeunesse. Parce que n'oubliez pas qu'en 1991, avant l'instauration de la prise en charge des enseignants par les parents, eh bien, c'est l'État congolais qui prenait les enseignants en charge de la maternelle jusqu'à l'université. Eh bien, en 1993, On a instauré le système de prise en charge des enseignants par les parents. Eh bien, voilà, c'était la descente aux enfers. Malheureusement, aujourd'hui, la gratuité arrive, mais il y a des classes qui sont en train de fonctionner toujours sous mode de la prise en charge des enseignants par les parents. Vous prenez les classes de 7e, 8e et jusqu'en 4e année, donc l'ex-6e année. Donc ce sont des véritables problèmes. Mais déjà au niveau primaire, les enseignants boudent la gratuité parce que, eh bien, ce qu'ils touchent ne peut pas leur permettre à bien faire le travail. Et donc le gouvernement est appelé à pouvoir mettre en place un financement public conséquent qui puisse permettre que l'éducation puisse redorer sa belle robe d'antan.
Monsieur Jean Bosco Pouna, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie, madame.
C'était Jean Bosco Pouna, porte-parole de la synergie de syndicats des enseignants de la RDC qui s'entretenait avec Gisèle Cage. Et c'est la fin de cette émission Bana Okapi sur nos antennes de Radio Okapi. Le gouvernement africain ne dépense toujours pas les sommes nécessaires pour assurer une éducation de qualité aux enfants du continent, selon l'UNICEF. Ils consacrent environ 2% de leur budget d'éducation à l'enseignement préscolaire, tandis que 20% sont consacrés à l'enseignement supérieur en moyenne. Les financements de l'éducation est un problème majeur sur le continent africain. C'était les sujets de votre émission. Nous disons merci à tous nos invités, Michel Otto, David Diatezoa, Serge Bondelli et Jean Bosco Pouna qui ont participé à cette émission. Nous remercions également Gisèle Cage, Ezekiel Mouzalia et nos confrères de radio communautaire, notamment la radio Nissi et Kalinga, qui ont coproduit cette émission, une réalisation de Gisèle Cage sous la supervision de Jean-Marc Matwaki, mise en onde de Jean-Claude Siala, une présentation de Sarah Sumbela. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site www.radiokapi.net et sur la page Facebook Bana Okapi. Restez à l'écoute de votre radio pour la suite de programmes.